Chapitre 12. Pedro et Alejandro sont restés en surveillance à l'abri des véhicules, dans le bosquet de peupliers. Vince Penn, un tank sur pattes, des lunettes de vision nocturne sur les yeux, a pris la tête du petit groupe à travers le pré qui résonne du chant des insectes. Le boîtier métallique contenant les ampoules à la main, Paloma Sutherland avance derrière lui, suivi par Egon Godfrey et les quatre membres du commando. À cette heure, la route est déserte, et c'est à se demander si elle mène quelque part. Les bandes blanches luisent faiblement dans la nuit, comme les éléments d'un code mystérieux. L'équipe n'emprunte pas l'allée privée afin d'éviter d'être vue. Penn et les autres franchissent la clôture et poursuivent à travers champs. Le vent, qui s'était levé avec la nuit, s'est éteint vers l'ouest en laissant la nature immobile dans son sillage. La maison principale dresse sa façade recouverte de clins à l'abri de grands chênes. Des lumières brillent au rez-de-chaussée comme à l'étage. Les Hawks veillent visiblement, malgré le whisky et le somnifère. Le pick-up Ford F-550 d'Ansel est assoupi sur l'aire de parking gravillonné. Les écuries et la grange sont plongées dans l'obscurité, tout comme le logement du régisseur, une masse géométrique à peine visible 300 mètres plus loin. Il règne sur le ranch un silence absolu, épargné par le chant des insectes. Les membres du commando prennent position tout autour de la maison, à l'exception de Paloma qui se tient à l'écart en serrant dans sa main le boîtier métallique. Rupert et Chris grimpent les quelques marches de la véranda arrière, tandis que Vince et Godfrey font de même sur l'avant. Ils sont équipés d'un pistolet crocheteur qui vient à bout de la serrure quasiment sans bruit. La maison est dépourvue d'alarme. Les Hawks ont toujours estimé qu'ils étaient capables de se défendre seuls. Ils sont texans après tout et vivent sur un ranch. À défaut d'être nés avec une arme à la main, ils ont des prédispositions. N'importe quel membre du commando risque sa vie ce soir-là. Egon et Vince s'avancent dans le vestibule à l'instant précis où Rupert et Chris pénètrent dans la cuisine. Ils ont pris la précaution de mémoriser la disposition des lieux en examinant les plans de la maison téléchargés sur leurs ordinateurs. Rupert et Chris ont été chargés du rez-de-chaussée pendant que les deux autres montent directement à l'étage. La vieille bâtisse est solide, mais les marches craquent sous leur poids. Ils parviennent pourtant à l'étage sans encombre. Chaque porte ouverte figure un danger potentiel, mais les portes fermées sont plus menaçantes encore. À condition de croire à la réalité physique du corps, et donc à la mort. Le front de Vince est couvert d'un voile de transpiration, alors que celui d'Egon est sec. Il visite les chambres du premier étage l'une après l'autre, sans découvrir personne. De retour sur le palier, Godfrey aperçoit Rupert et Chris dans l'entrée, en contrebas. Le second hausse les épaules, le premier affiche une mine dégoûtée. Autant fouiller l'énorme grange, dont ils allument les lumières, révélant des myriades de poussières qui flottent dans l'air au milieu d'une forte odeur de paille. Les Hawks possèdent deux autres véhicules, une berline Chevrolet et un 4x4 Ford. Ni l'un ni l'autre ne manque à l'appel. Vince Penn a une stature de géant, mais le grand ordonnateur lui a attribué le cerveau le moins développé de la bande. Il finit par exprimer tout haut ce que les autres pensent tout bas.
Hé, vous croyez qu'ils ont pu s'enfuir à cheval? Parce que si c'est le cas, ça expliquerait qu'ils n'aient pas emprunté l'entrée du ranch et que Pedro et Alejandro ne les aient pas vus.
Reste à visiter les écuries. Les chevaux passent la tête au-dessus des demi-portes des boxes en hennissant. Les intrus comptent 8 boxes et 3 chevaux seulement.
Combien ont-ils de putains de chevaux? S'énerve Godfrey. Si jamais ils sont partis à cheval, le régisseur saura où ils sont allés.
Un chemin goudronné en mauvais état relie la maison principale à celle des sabbats, silencieuse sous un chêne, toute lumière éteinte. Godfrey avait l'intention de visiter les lieux aussi discrètement que le domicile des Hawks, mais le pavillon tout entier s'illumine lorsqu'ils parviennent à 15 mètres de l'entrée. Les lumières extérieures inondent de lumière les alentours, et le petit groupe se fige en voyant la porte s'écarter. les intrus voient sortir Juan et Maria Saba, qu'ils reconnaissent pour avoir vu leur photo dans le dossier de la NSA consacré à Jane Hawke. Juan tient à la main ce qui ressemble à un fusil de calibre 22. Sa femme est armée d'une machette. Godfrey n'est pas dénué d'humour. Il trouve quelques raisons de rire dans cette scène écrite à son intention par le grand ordonnateur. Il s'amuse de voir ces deux malheureux affronter aussi piteusement sept mercenaires aguerris. Derrière les sabbats, apparaissent soudain 2, 3, au total 8 hommes et femmes lourdement armés. D'autres encore surgissent des côtés du pavillon. Des inconnus des deux sexes, et même quelques adolescents tous équipés d'armes à feu. Certains portent à la ceinture des machettes dans leur étui. Il s'agit de Latinos pour une bonne moitié d'entre eux. Les membres de cette petite armée n'ont pas l'air de plaisanter et le sourire de Godfrey s'efface instantanément. Depuis combien de temps tous ces gens attendent-ils sans prononcer un mot puisque Pedro et son frère, qui les surveillent à l'aide de micros cachés, n'ont rien entendu?
Nous ne cherchons pas les ennuis, déclare Juan Saba. Je vous conseille de repartir.
FBI, réplique Godfrey.
Il estime que le bureau impressionnera davantage ces gens que s'il exhibait sa carte de la sécurité intérieure.
Nous sommes munis de mandats d'arrestation.
C'est faux, mais la notion de mensonge n'a de sens que si l'on croit à la vérité. Les mots sont de simples outils, rien de plus.
Godfrey montre son badge. Déposez vos armes. Vous avez devant vous des oncles, des tantes, des cousins courageux, rétorque Juan Saba. Des voisins, des amis de Monsieur et Madame Hawke. Des amis de Jane.
Jane Hawke s'est rendue coupable de meurtre et de trahison. Quiconque lui porte assistance sera inculpé et jugé pour complicité. On compte une bonne trentaine de personnes autour de la maison. Les visages sont impassibles. Aucun n'affiche la peur ou la colère. On pourrait croire que leur résistance n'est dictée par aucune émotion, que seule la loyauté et la justice guident ces gens. Godfrey rompt le silence pesant qui lui fait face.
Si vous continuez à apporter votre soutien à une traîtresse et une meurtrière, si vous ne nous aidez pas à retrouver Hansel et Claire Hawke, je demanderai des renforts. Soyez réaliste, Monsieur Saba. Vous n'avez pas les moyens de soutenir un siège face aux autorités fédérales.
Le régisseur laisse s'écouler 30 secondes avant de répondre. Peut-être pour montrer à son interlocuteur que ses menaces ne l'atteignent pas.
Je ne vous conseille pas vraiment de tenter un coup de force. Vous êtes venu transformer Hansel et Claire en esclaves, avec vos piqûres. Le diable n'agit qu'en silence et loin des projecteurs. Vous ne pouvez pas nous obliger à vous aider. On ne restera pas les bras croisés. On fera éclater la justice.
Egon Godfrey ne s'attendait pas à un tel développement. Jane a parlé des implants cérébraux à ses beaux-parents. Ceux-ci ont communiqué l'information à Juan Saba, à charge pour lui de la transmettre aux siens. Ces gens sont suffisamment crédules pour souscrire à une telle théorie. Rupert Baldwin n'a pas vraiment de patience pour les gens ordinaires de cette espèce qui croient encore au mythe de leurs droits constitutionnels.
« On va quand même pas se laisser impressionner par cette bande de fouille-merde »
dit-il suffisamment fort pour être entendu par Saba. Godfrey n'est pas hostile au principe d'une fusillade. Son corps physique relève de l'illusion pure. Il est imperméable à la mort. Il serait intéressant de voir comment tournerait un affrontement pareil. Mais au même titre qu'il est capable de voir, d'entendre, de toucher, de goûter et de sentir, il est sensible à la douleur. Le grand ordonnateur, en ne lui fournissant pas de scénario écrit, lui fait confiance pour gérer la crise. L'expérience lui a enseigné que lorsque son intuition reste muette, le grand ordonnateur lui impose des souffrances, sous une forme ou une autre, de façon à l'encourager à imaginer une meilleure solution. Ses subordonnés et lui n'ont pas enfilé de tenue spéciale, en dehors d'un gilet pare-balles. Les blessures à la jambe ou au bras font très mal. Godfrey sait aussi que la clandestinité est sa meilleure alliée. Il ne gagnera rien à provoquer une fusillade.
Tous ces gens resteront là à veiller sur nous, de jour comme de nuit, précise Saba. On ne se laissera pas prendre par surprise.
De toute façon, rétorque Godfrey, nous avons le moyen de les retrouver, même s'ils se sont enfuis à cheval.
Alors allez-y, lui conseille Saba.
Vous regretterez ce qui s'est passé cette nuit.
Il n'y a rien à regretter quand on agit pour le bien. Sale fouille merde prétentieux, gronde Rupert Baldwin.
Craignant de voir dégénérer la situation, Godfrey ordonne à ses gens de repartir. Le petit groupe ne tarde pas à rejoindre Pedro et Alejandro. Godfrey récupère le boîtier métallique confié à Paloma et renvoie ses acolytes dans leurs motels respectifs. Il confie néanmoins une mission à Rupert Baldwin, en lui demandant de l'accomplir si possible avant midi. Baldwin n'a pas son pareil pour se retrouver dans la jungle des images enregistrées par toutes les caméras du pays, qu'il s'agisse des satellites de surveillance ou des caméras de rue. Ils finiront bien par retrouver Hansel et Claire Hawk. Ce jour-là, Juan et Maria Saba seront cruellement punis. Comme tous les habitants de la planète, les Saba sont de simples illusions.